quand à la floraison, le filet s'allonge, l'anthère traverse les stigmates poilus, le vocabulaire me revient en 10 ans, moi c'est des trucs de 50 ans, le stigmate poilu, et donc les étamines sont disséminées dans ces stigmates poilus et vont descendre dans l'ovaire et le féconder. Et les stigmates continuent de pousser et retombent à l'extérieur des glumelles. Tu vois ? Et donc, quand on voit les anthères retomber, la fécondation a eu lieu. C'est une fécondation interne. Tu vois ? Et donc
auto-fécondation.
Une auto-fécondation, évidemment, interne. Et donc, quand il faisait ses croisements, fallait qu'il aille mettre le pollen qu'il voulait sur... c'est un travail très minutieux, quoi.
Et quel rapport avec la bio, tout ça ?
Non, mais c'était ce qu'il faisait, c'est ça qui l'a amené à la bio. Parce qu'il s'est... Oui, enfin, je m'égare, parce que... Comme ça, je m'égare.
Parce que toi, t'as pas fait d'autofécond, t'as pas fait...
Non, mais j'ai vu, il avait un fils, Raoul Le Maire, que j'ai connu, il s'est lancé dans la bio, mais... il avait une ferme en Mayenne où il continuait de fabriquer des nouvelles variétés de blé.
D'accord.
Et il avait un fils qui avait l'air un peu simplet comme ça, mais qui faisait ça. Tu vois, qui n'était pas dans les affaires. Et je l'ai vu. Et puis j'ai appris à l'école la fécondation, quoi. Puis on apprenait à nos élèves. Mm-hmm. Voilà. Donc alors, après, pour revenir à la bio, ben donc, le maire... Donc il s'est séparé de Nature et Progrès, qui a continué son chemin, et lui, ils sont partis dans le commercial. Et je te l'ai déjà dit, je me souviens, le maire, en fait, ça c'était les années 50, le maire, il était poujadiste, il faisait de la politique, et il a rallié à sa cause les poujadistes, qui étaient des petits commerçants, des petits... je sais pas quoi, des gens qui avaient des métiers libéraux dans les villages, quoi, qui sont partis, convaincus par le discours de le maire, vendre la bio aux paysans de chez eux. Et ben, ça, c'est... Il y a un agriculteur encore à Touvois, là, qui s'appelle... qui est le tonton d'Aurélie Bousselaire, il s'appelle Pierre Bousselaire. Sa femme, elle travaillait à l'accueil de la mairie de Saint-André, là, Françoise. Elle est plus jeune, mais Pierre Bousselaire, il doit avoir 90 ans maintenant, mais il a fait de la bio parce qu'il était poujadiste. Et donc, il a connu le maire par le poujadiste, par les réunions politiques, quoi. Et il a fait un peu de bio. Moi, quand je suis arrivé ici, c'est en 78. Quand je suis arrivé, ben oui, tu vois, les agriculteurs du coin, là, productivistes qu'on connaissait, ils m'ont dit, il faut aller voir Pierre Bousselaire, quoi. Et puis Pierre Bousselaire, il avait arrêté, parce qu'au moment, il avait des moutons, mais il avait... Il s'est mis à la chimie, après, quoi.
Ah oui.
Parce que ça marchait pas, la bio. En fait, ils avaient pas. Enfin, moi, j'ai pas réussi, mais quand j'y réfléchis, ça pouvait pas marcher. La façon dont ils prenaient, quand je vois comment ils travaillent maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Nous, en fait, on essaie. D'abord, moi, je l'ai compris tout de suite, mais j'étais dans le piège quand j'ai compris, quoi. Idéalement, c'était beau, mais en fait, c'était. Le maire. C'était une boîte à intégration. On vendait nos fertilisants aux agriculteurs, mais encore, on rachetait leurs produits. Mais, et puis, il y avait une... C'était à la limite sectaire, le maire. Il y avait le syndicat des agrobiologistes, et les cadres de chez le maire, les gens qui s'engageaient dans le syndicat des agrobiologistes, la philosophie, c'était d'isoler les clients qui se mettaient à faire de la bio, de les isoler des autres, quoi. Moi, j'étais pas du tout dans cette idée, mais c'était l'esprit de la maison où j'étais, quoi. Pour te donner un exemple, Enfin, j'ai plein d'exemples, mais par exemple, il y a une fois, j'avais un responsable de secteur qui s'occupait de plusieurs départements, et de temps en temps, il venait, puis avec deux, trois agriculteurs qu'on avait convaincus, on allait voir un, à une centaine de kilomètres, qui réussissait, quoi. Il y avait quand même il y a des gens qui réussissaient, quand même. Ça marchait bien en élevage, évidemment, ça ne peut plus marcher en élevage. Et il s'appelait Pitrou, il habitait juste à côté de Caen. Et par exemple, il binait son blé, ce gars-là, et l'agriculteur avec lequel qui habitait, qui avait une ferme à côté de Tiberville, il avait envie de le revoir, et j'y suis retourné avec lui, voir Pitrou, et je m'étais fait, c'est une faute professionnelle, quoi. Fallait pas que les agriculteurs soient en contact entre eux, parce qu'ils allaient se dire des choses, tu vois, c'est pour...
Ouais.
Ah ouais, il m'avait dit, ben vas-y, mais le jour où Versavelle te quittera, parce qu'il aura appris, je sais pas quoi, tu vois, fallait... Mais c'était dingue, quoi. C'était une...
Alors que c'était une boîte de bio.
Oui, 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 le maire, c'était ça. Et d'ailleurs, Pierre Decomte, il a démarré en même temps que moi. Puis Pierre Decomte, il sortait de l'école d'agriculture sur le plan pratique agricole. Il y a plein de choses qu'il ne savait pas faire, quoi. Pierre Decomte, moi, je tiens mon chapeau, hein, c'est un sacré mec. Quand je vois ce qu'il a fait dans sa vie, tu vois un peu l'installation qu'il a là-bas, tout ça. Il a installé sa ferme, il a fait vivre. Il était engagé au niveau national, il défendait ses idées au niveau national. Et il a fait ça ici en même temps, quoi. Ça, c'est un gars, moi, je suis... Mais au moment, lui, il était opposé, lui, il essayait de mettre en place un système coopératif, quoi. Donc, on était commercialement, on était opposés. Et quand je faisais des visites de ferme, eh ben, il venait avec sa vieille dodoche. Et puis, quand on avait fini la visite de la ferme, il prenait la parole, puis il disait, le maire, c'est des voleurs, venez chez nous, quoi. Il avait un cul au monstre, hein. Mais d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que il a une fille qui a été copine avec Claude au lycée.
D'accord.
Laure Decomte. Tu as dû la voir. Ah, mais non, tu ne te souviens pas trop de Haute. Mais si, tu te souviens de Haute.
Oui, mais en cinéma.
Oui, d'accord. Oui, c'était au cinéma. Parce que Laure n'allait pas au cinéma. Non. Mais elles étaient très copines. Et donc, elle est venue dormir ici ou d'aller dormir là-bas. Donc, automatiquement, on a fait des voyages. Et puis j'ai rencontré Pierre Decomte. Puis moi, à ce moment-là, j'étais à la NPE, quoi. J'avais tourné la page. Mais Pierre, il se tenait un peu à distance, quoi. Puis là, quand je l'ai revu, je sais pas en quelle occasion, mais je lui ai dit, bon, écoute, maintenant, on est du même côté, quoi. On a oublié le passé. Il est sympa, mais au début, il était réservé avec moi, parce que... Et lui, il m'a combattu avec beaucoup d'énergie. Hein. Voilà.
Et donc lui, à l'époque, il était...
Ben, il a pris ça, c'est quand il a pris sa ferme, quoi.
Et lui, il n'était pas bio, du coup.
Mais si, il était bio.
Il était bio.
Il est sorti de l'école d'agriculture, il a repris une ferme, d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas lui qui me l'a dit. Et il a repris une ferme qui appartenait à sa grand-mère. Il y avait sans doute un fermier, et lui, comme il sortait de l'école, il avait son projet, hein. Il s'est vachement mûri, tout ce qu'il a fait. Il m'a raconté après plein de choses. C'est pas le bio, c'est tout un art de vivre. C'est...
Et comment toi, t'es arrivé
au
jardinage bio.
Oui, par la culture bio, mais ça c'est une histoire. C'est une histoire. C'est lié à ma vie de mon ancien couple. Ma première femme, elle était à côté d'Orléans. Et donc ils avaient un cousin qui s'appelait Jean Duneau, qui faisait du bio, qui faisait du maraîchage bio, et qui disait, tu te rends compte, début des années 60, je connais ma femme en 65, donc à la fin des années 60, il disait, en bio il y a de l'or à faire. Et aussi, à ce moment-là, le bio et la santé s'étaient mêlés. Et l'homéopathie. et l'anti-vaccin et tout, c'était un peu cette catégorie-là, très extrême, quoi. Et avec ma femme. D'abord, avant, quand on s'est marié, en 66, moi j'ai quitté la ferme et j'ai fait pendant 3 ans une formation pour devenir technicien agricole et travailler dans les maisons familiales, là, qui étaient des associations familiales d'enseignement agricole, parce que avant la loi de 1960, il n'y avait pas d'enseignement agricole officiel en France. Les lycées agricoles sont nés de la loi d'orientation. C'est Pisani qui a fait les lycées agricoles. Le Chambray, ça date du début des années 60, quoi. Et tu verras, tous les lycées et collèges, ça date de cette époque-là.
Ils en parlent de Pisani dans le Chambray.
Ah bon ? Pisani, c'est un ministre de l'Agriculture. Moi, je me souviens bien, parce que j'étais très marqué.
Parce que lui a prôné le remembrement.
Bah, évidemment, c'était l'agriculture.
Et depuis, il a changé d'avis.
C'est possible, mais moi je l'ai perdu de vue après quand il a plus été ministre, je sais pas ce qu'il est devenu, quoi. Moi je l'ai connu les années 60, mais c'était les idées de l'époque, quoi. Mais la SAFER, c'est né de la loi de Pisani. Enfin, il y a plein de choses qui se sont faites à ce moment-là. Moi j'étais jeune agriculteur à ce moment-là, donc j'étais en plein dedans, quoi. On croyait que à ce moment-là, on croyait que le moi, j'avais un slogan, la technique gagne, quoi. Je croyais qu'on avait des solutions pour tout. Mais c'était miraculeux. Mais bien sûr, quand tu réfléchis après, mais on retournait des herbages, on foutait des engrais à gogo et on faisait du maïs, mais on avait des épis de maïs qui étaient comme ça, quoi. Mais et en plus, on désherbait, alors qu'il n'y avait pas besoin de désherber. Et en plus, on désherbait avec la cimazine et l'anthrazine, on était 4 kg hectare, et quand ils l'ont supprimé en 2004, ils étaient à 800 grammes. Quand on désherbait un maïs à la cimazine, on ne pouvait pas faire un blé derrière, il ne poussait pas. Il fallait refaire un maïs. Tu vois, mais ça ne nous étonnait pas, c'était comme ça. Moi, j'ai vécu ça. Hein. Voilà. Bon. Donc, quand on était dans l'Isère, Arlette a cherché du boulot. Arlette, elle était dans une maison familiale, elle était directrice d'une maison familiale, et, à côté de chez moi. Elle a cherché du boulot à Grenoble, c'était en 66. Grenoble, c'était en pleine ébullition parce que c'était la préparation des Jeux Olympiques. Et en 64, je crois, il y a eu des élections municipales et Dubedou a renversé, qui avait une liste de gauche, a renversé, c'est une ville qui était traditionnellement à droite.
Grenoble ?
Oui, je ne sais plus comment il s'appelait, je ne sais plus, j'ai oublié. Mais en fait, l'équipe de Dubedou, c'était les résistants du Vercors. Grenoble, c'est au pied du Vercors.
Oui.
En 65, c'est des gens qui avaient 45 ans, tu vois, qui avaient fait autour d'eux, quoi, qui avaient fait la résistance dans le Vercors, qui avaient formé une équipe, qui croyait à la culture, à plein de choses. Et Dubedou, il est arrivé à la mairie en 64. Et c'est là qu'ils ont construit la maison de la culture, c'est là qu'il y a eu toutes les infrastructures qui ont été mises en place pour les Jeux Olympiques, qui ont eu lieu en 68. Et Arlette, elle a été embauchée par le comité, par le CCAS, Comité d'Action Sociale de la ville, pour une expérience d'animation culturelle auprès des personnes âgées. Et donc, elle travaillait avec des profs gérontologues de la fac de Grenoble, et qui avaient mis en place donc, la culture, la gymnastique, tout ça. Et Arlette avait organisé un voyage d'études au Danemark, qui était beaucoup plus avancé que nous dans les domaines. Enfin. Et donc, dans cette équipe du Bedou, ben, c'était un bouillon de culture, Grenoble, quoi. Il y avait des conférences, il y avait... Donc c'est là qu'on a, il y a, comment il s'appelait, l'écolo là, qui s'est présenté au président aussi.
Dumont.
Dumont, il est venu faire des conférences, enfin, tous ces gens-là, quoi. Moi, j'avais 25 ans, donc j'ai découvert tous ces trucs, qui étaient complètement en contradiction avec ce que je faisais par ailleurs, mais j'étais pas une contradiction près. Hein. Et après tout ça, ça a mûri, quoi. Ça vient. Moi, ma sensibilité, elle vient de ces années-là. Hein. Puis on a connu des gens qui vivaient dans les montagnes là-bas, je ne sais plus comment ça s'appelle. Juste Grenoble, c'est encaissé, donc. Bon, je n'ai pas de la tête, mais c'était l'époque. Il y a eu 68, il y a eu plein de gens qui sont revenus à la campagne, il y a eu tout ce mouvement, l'artisanat, tout ça. Donc, par son boulot, elle a connu plein de gens qui venaient, par exemple, donner des cours de tissage, de poterie, de vannage, de je ne sais pas quoi, assez vieux, quoi. Puis on allait les visiter le dimanche parce qu'ils avaient des ateliers puis des boutiques dans la campagne. Donc c'est tout ça, on a vécu dans ce bouillon, quoi. Mmh. Voilà.
Oui.
Béni.
Dans l'Isère, tu n'étais pas très loin de là.
Non, ça faisait 150 km.
Oui.
Ouais.
Ouais.
C'était le centre qui était le plus près de chez moi, quoi. Mmh. Alors la première année, ça s'appelait Moiran. Il y avait, je ne sais pas si ça n'a plus existé, mais c'était des structures qui avaient été mises en place par l'institution des maisons familiales, qui avait une fédération nationale, et c'est les gens des mouvements d'action catholique familiale, quoi, le CMR, tout ça, qui avait porté le progrès agricole, de cette époque, on appelait le progrès. Mais ça s'est fait par ces gens-là, évidemment, quoi. Parce que là, c'était. Il y avait très peu de formation agricole, donc les gens qui se formaient, c'était ceux qui allaient là. Donc après, ils prenaient l'initiative. Je ne sais pas si t'as entendu parler de Michel de Baptiste. Michel de Baptiste, c'est un gars qui a été responsable national de la JAC et qui avait écrit un bouquin, ça doit être les années 60. Peut-être avant, la révolution silencieuse. Et il explique, ça ne doit plus être en vente, quoi, mais il explique cette évolution sourde de l'agriculture par la base. En fait, c'est venu par la base. Hein. Mais il y avait un gars dans mon village, là.
Ah, le remontrement, c'est pas par la base.
Non, mais il y a... Non mais je pense que oui. Alors les gens de la JAC, j'essaye de réfléchir, j'ai pas trop réfléchi, mais en fait ils s'engageaient dans les chambres d'agriculture, c'était quand même par le biais des chambres d'agriculture, quoi.
Mmh.
Oui.
Bon, tu me l'offres cette tisane?
Dans le cadre des jeudis juin, Principe Actif est mis à l'honneur pour la seconde année consécutive. 5 de vos émissions préférées et leurs animateurs s'emparent des platines le jeudi 4 juin à partir de 18h30 au Cube à Évreux pour une sélection musicale riche, variée, détonnante. Rejoignez-nous pour un moment partagé, convivial et festif. Le tout en totale gratuité. Bar et food sur site.
Hate.
two faces of the same coin. We just flip it to let it drop like a rolling stone. And when it hits the ground, we get to know what to feel, yeah. But it doesn't really matter, for none of it is real.
Concerts, 3 jours, 2 scènes, un camping, de quoi se rafraîchir et se restaurer. Le festival Ça sonne à la porte fête ses 20 ans et comme tous les ans, Principe Actif est présent.
Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 juin, durant ces 3 jours, la radio vous propose interviews, reportages, micro-trottoirs les pieds dans l'herbe, live improvisé et plus si affinité.
Bref, de quoi vous donner l'envie de nous rejoindre ? Pour le CSALP édition 2026, le tout en totale gratuité. Eh, venez, on s'y retrouve.
Oh ouais.
Sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que non. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que tout le monde médit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14. 14 juillet, je reste dans mon lit douilleux. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de mal à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que non. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que tout le monde montre du doigt. Sauf les manchots, ça va de soi. Poursuivi par un cutéreux, j'lance la patte et pourquoi le taire. Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de mal à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que non. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que tout le monde se rue sur moi. Sauf les cul-de-chatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémy pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne vais pourtant ne parler à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que non. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que non. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que non. Les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que tout le monde viendra me voir pendu. Sauf les aveugles, bien entendu.
Primitive.